Donc je commence. Bon. Donc je relis le sujet qui nous est proposé de la disqualification parentale à la parité d'estime. Quelle voie emprunter pour s'engager dans des relations de collaboration avec les parents ? C'est le sujet de la table ronde. Donc moi je suis Bruno Mazurel, je suis volontaire permanent du mouvement ATD Quart Monde et je travaille sur la question de l'école depuis une quinzaine d'années essentiellement. Et donc j'ai été à Rennes responsable d'un projet d'ATD Quart Monde qui s'est appelé « En associant leurs parents à l'école, tous les enfants peuvent réussir » qui a été mené pendant 5 ans, donc 4 années scolaires entières, plus le temps de mise en route et le temps de bilan, avec les deux écoles publiques du quartier et avec un travail en partenariat entre l'éducation nationale, l'IUFM. On a pensé impliquer l'IUFM dès le début, parce qu'on avait dès le début l'intention que si on apprenait des choses intéressantes, ça puisse servir en formation derrière. Dans les acteurs, il y avait du projet qui ont beaucoup bossé avec moi, il y avait un ancien directeur d'IUFM, et c'était son idée fixe d'arriver à ce que ça serve à la formation des acteurs derrière, que ce ne soit pas un projet innovant, isolé, comme il y en a eu des quantités dans l'éducation nationale, mais qui n'ont pas pu essaimer par la suite, parce qu'on n'avait pas prévu comment on ferait. Donc voilà, pendant 5 ans, j'ai été responsable de ce travail, donc j'ai dit les partenaires, il y avait l'IUFM, l'éducation nationale, donc là c'était au niveau départemental, le directeur académique, la FCPE, parce qu'on ne peut pas travailler seulement à rapprocher les parents les plus éloignés de l'école. Si les autres parents qui sont plus à l'aise avec l'école ne collaborent pas à essayer de rapprocher ceux qui ont du mal à y aller, c'est encore plus difficile. Donc la FCPE a participé, la ville de Rennes qui s'est beaucoup engagée avec son projet de réussite éducative, et qui, j'ai oublié, l'université, Pierre Perrier en particulier, était pour le CREAD un peu le partenaire et le représentant de la recherche au niveau du groupe de pilotage du projet pendant toutes les années. Et il a mené sa recherche en parallèle, donc le rôle du chercheur, c'était plutôt d'éclairer le projet que de le conduire. C'est pas lui qui nous a dit comment il fallait faire pour aller vers les parents les plus éloignés de l'école. On a fonctionné avec nos intuitions et avec ce que les idées des parents, avec les idées des enseignants et de tous les acteurs. Mais il a fait sa recherche à côté pour éclairer le travail qu'on faisait. Donc voilà, donc je voudrais commencer par dire un peu comment ATD Quart Monde analyse la question des inégalités scolaires. Vous savez, on a encore entendu les résultats de l'OCDE, de l'enquête PISA. Chaque année, on nous redit que ça s'aggrave. Si un enfant vient d'un milieu défavorisé, ses chances de réussite à l'école ont plutôt tendance à s'empirer au fil du temps par rapport aux enfants de milieux favorisés que l'inverse. Donc pour ATD Quart Monde, la première chose, c'est de se demander quelles sont les causes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que si on vient d'un milieu défavorisé, les chances de réussite à l'école sont beaucoup moins grandes que les autres. Donc on a fait tout un travail quand même d'analyse sur ce sujet-là. Et je vais vous expliquer déjà un petit peu le contenu de cette analyse. Les parents défavorisés nous disent souvent, et là-dessus ils ont raison, c'est pas parce que notre enfant est pauvre qu'il est plus bête qu'un autre. Effectivement, il n'y a pas de cause génétique aux mauvais résultats scolaires. Il y a même des analyses de chercheurs. Il y a quelques jours, j'ai entendu les analyses d'une psychologue sociale qui travaille à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Madame Toxek, un nom comme ça, je ne suis pas trop sûr de comment s'écrit son nom, et qui expliquait que quand on cherche à comprendre pourquoi un enfant réussit moins bien dans un certain nombre d'épreuves scolaires, c'est pas forcément à cause de ses facultés intellectuelles intrinsèques, c'est à cause des conditions compétitives dans lesquelles on le met en situation. Il y a eu beaucoup d'études de fait, comparaison entre les enfants noirs et les enfants blancs aux États-Unis. Pourquoi un enfant noir arrive à des moins bons résultats scolaires que le camarade qui n'est pas forcément à côté, parce qu'il n'y a pas toujours eu beaucoup de mixité entre les noirs et les blancs dans les écoles des États-Unis, enfin ça dépend des endroits. Ici aussi, pourquoi une fille en physique-chimie arrive souvent à des moins bons résultats. Et elle explique par ses recherches qu'il y a quand même le fait que la compétition fait que certains ont intégré une idée d'infériorité et qui croient à l'avance qu'ils vont moins bien réussir que les autres. Donc il y a une histoire de manque de confiance en soi de certains, et la manière d'apprendre par la compétition plutôt que par la coopération aggrave le problème. Donc c'est pas intrinsèque, parce que si on fait des tests et qu'on enlève la pression qu'on met sur les élèves, on voit que des filles en géométrie, elles peuvent être aussi bonnes que des garçons, alors que quand c'est un cadre de compétition, elles se dévalorisent elles-mêmes et elles réussissent moins bien à cause du contexte dans lequel on les fait travailler. Donc à la TD Carmonde, comment on comprend la situation? Alors la première cause qui fait qu'un enfant a plus de mal à apprendre à l'école parce qu'il vient d'un milieu pauvre, on pense que c'est à cause de l'écart culturel qu'il y a entre l'école et ce que l'enfant vit dans son milieu. Quand on connaît très bien des familles en grande pauvreté, quand l'enfant il entre en école, en maternelle, il entre vraiment sur une planète au niveau culturel qui a guère de rapport avec ce qu'il vit dans sa famille. Donc ça complique les choses pour les enfants, pour donner du sens à ce qu'ils apprennent, parce que nous on dit à TD Carmonde, pour qu'un enfant apprenne, il faut lui apprendre à partir de ce qu'il sait déjà. Et si l'école ne s'appuie pas sur les savoirs que l'enfant a acquis dans son milieu, fait comme si c'était une tête vide qu'on allait remplir et que les têtes de tous les enfants étaient faites de la même manière, on s'aperçoit que ça réussit bien. C'est avec certains enfants qui, au niveau culturel, n'ont pas de problème à intégrer les savoirs que dispense l'école, parce que c'est des savoirs familiers dans leur famille, alors que pour un enfant qui vient d'un milieu de grande pauvreté, on lui demande vraiment de faire le grand écart entre ce qu'il vit chez lui et ce qu'on lui demande d'apprendre à l'école. Ça peut même aller plus loin pour vraiment des familles en grande pauvreté, c'est qu'il y a aussi tout un regard négatif que l'école renvoie à l'enfant sur sa famille. Je suis en train de lire un petit bouquin qui est édifiant sur ce sujet-là, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle « Les demeurés » de Jeanne Benhammer. Elle explique le phénomène de refus d'apprendre de certains enfants à cause du conflit de loyauté. L'enfant ne veut pas renier sa mère qui s'appelle la Varienne, qui est considérée comme l'idiote du village, et la petite fille refuse toutes les propositions de Mademoiselle Solange, sa maîtresse, qui veut la faire sortir de l'ignorance. Mais la gamine ne peut pas accepter parce qu'elle veut rester proche de sa mère. Donc ça, effectivement, les sociologues parlent de conflit de loyauté. Nous, on voit ça plus par le biais du terrain, où on voit les claques, les souffrances qu'on a entendues ce matin exprimées par les gens, des familles très défavorisées pour qui l'école est humiliante. Et le fondateur d'ATD Carmonde, quand j'ai commencé à être volontaire du mouvement, c'était dans les années 78-80, Je faisais une bibliothèque de rue, on faisait des formations avec lui, Joseph Rezinski, là, et il nous disait en formation, si vous avez une seule chose à apprendre aux enfants que vous voyez dans la bibliothèque de rue, apprenez-leur à être fiers de leurs parents. Parce que si un enfant est fier de ses parents, il peut apprendre, alors que si un enfant il est dans la honte de ses racines, il est empêché de s'ouvrir aux apprentissages que lui propose l'école, parce qu'on ne se construit pas sur de la honte. On a besoin d'une estime de soi, d'une fierté de ses racines, pour pouvoir s'ouvrir au monde et s'approprier des savoirs qui sont autres que ceux de son milieu, parce qu'on n'en aura pas peur si on sent que son milieu est respecté et que les autres savoirs qu'on nous propose ne nous mettent pas justement dans ce conflit de loyauté dont parle l'histoire que raconte Madame Benhammer. Donc ça, c'est le premier point que je dirais. Comment fait l'école? Il y a un fossé culturel. Donc nous, on dit, les savoirs, on devrait les apprendre à partir de l'intelligence de tout le monde. L'enfant lui-même, c'est pas une tête vide, il a déjà un vécu quand il entre à l'école. Ses parents, ils ont un vécu. Si on s'appuie sur les parents, parce que l'école peut pas non plus faire de l'intrusion, donc elle va pas mettre des enquêtes sur ce que vit l'enfant dans sa famille, mais il y a moyen d'associer les parents pour essayer de chercher comment on va donner du sens aux apprentissages. Et les possibilités sont nombreuses. À Maurepas, c'était un quartier où il y avait 50 nationalités. Les enseignants en CM2 nous disaient « Plus de la moitié des enfants de ma classe sont bilingues. » Qu'est-ce que l'école fait de la langue maternelle des gamins? Comment elle s'en sert pour montrer que l'enfant peut être fier de ce que ses parents sont et ce que ses parents lui apprennent et lui ont appris, au lieu de faire fi des savoirs que l'école a pu acquérir dans sa famille, comme si c'était des savoirs qui n'avaient pas de valeur? Mais ça, quand même, l'école est dure. Moi, j'ai travaillé 6 ans au Sénégal, et quand je vois des familles africaines ici, au Sénégal, savoir lire et écrire, c'est pas très important. C'est un pays à culture orale d'abord, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de savoirs qui sont véhiculés autrement que par l'écrit. Et l'école, souvent, crée des tensions, de la violence entre des enfants et leurs parents, si c'est des cultures africaines, et que l'école fait comme si les parents n'étaient que des manques, puisqu'ils ne savent pas lire, pas écrire. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui sont importantes là-dedans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux de Rochex sur le sujet, où il explique une situation d'une maman illettrée qui vit en France, qui a sa gamine qui est en CP, qui est immigrée. Et cette maman, elle prend sa gamine sur ses genoux chez elle pour l'encourager à lire un livre alors qu'elle ne peut pas le lire. Et Rochex explique qu'il y a une triple autorisation qui se joue entre la fille et la mère. Et il dit à la fin que cette triple autorisation est vraiment très importante, hein, que la mère dise à sa fille « tu as le droit d'apprendre des choses que moi j'ai pas pu apprendre, va quand même ». Donc elle donne confiance à son enfant pour s'investir, pour apprendre des savoirs que sa mère ne savait pas, c'est important. Hein, la fille qui dit à sa mère « tu sais pas lire, mais je te reconnais quand même comme ma mère et je te respecte tout à fait alors que tu ne sais pas lire », c'est aussi une autorisation que la fille donne à sa mère de garder toute sa valeur de mère alors qu'elle ne sait pas des choses qu'elle voudrait apprendre. Donc toutes ces choses-là, c'est très important. Et il dit, au lieu de dire à une maman « vous ne savez pas lire, restez assise chez vous, nous on va apprendre à votre fille », lui montrer qu'elle peut quand même, par la triple autorisation, aider sa fille à entrer dans les apprentissages, même si c'est des apprentissages qu'elle n'a pas fait elle-même, c'est extrêmement important, c'est plus déterminant que beaucoup de soutien scolaire qu'on pourrait faire pour aider la gamine. Si sa mère lui donne confiance dans l'école et l'autorise à apprendre des choses qu'elle ne sait pas, c'est extrêmement déterminant pour la gamine de sentir la confiance que sa mère fait pour faire ce chemin-là. Le deuxième point qui est très important selon nous, c'est la façon dont l'école, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure avec la psychologue là, de Clermont-Ferrand, c'est la façon dont l'école, par son mode d'évaluation, très tôt dévalorise les gamins qui sont plus faibles que les autres. Donc un gamin qui s'entend dire à longueur d'année « toi t'es moins bon, toi t'es pas bon, toi t'es nul, etc. » Je veux dire, ça atteint l'estime d'eux-mêmes des enfants, et comme l'a montré la psychologue dont j'ai parlé tout à l'heure, l'enfant intègre, il finit par intégrer son infériorité et il finit par se croire lui-même pas capable d'apprendre. Et même, il y a des enfants où nous on observe certains gamins où c'est grave parce que il y a des gamins qui se croient nuls eux-mêmes. Et quand le gamin en est à lui-même se croire nul, on peut faire tous les efforts pour le faire apprendre, on n'y arrive pas évidemment puisque il ne croit pas que les efforts qu'il pourrait faire pourraient servir à quelque chose. Donc là, il y a tout un travail à faire pour voir comment la façon d'évaluer les choses à l'école, on ne renvoie pas à un gamin une image négative de lui-même sans arrêt, parce qu'on finit par le décourager totalement d'apprendre. Et là, il y a quand même beaucoup de boulot. Hein, là, au séminaire où j'étais juste avant, et il y avait un chercheur, Philippe Joutard, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et ils ont développé avec le mouvement de lutte contre la constante macabre, tout un travail de recherche pour dire comment faire avancer les enfants, les évaluer par contrat de confiance au collège ou au lycée. Il y a les pédagogies de la réussite, il y a toutes les méthodes développées par Issem Freinet, etc. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Donc c'est quand même malheureux que l'école en soit encore aujourd'hui à faire croire à, je ne sais pas combien, c'est quand même 20% qui restent aujourd'hui en échec à l'école, alors faire intégrer l'idée qu'ils sont moins bons que les autres, à les mettre dans une situation de compétition constante, une pression scolaire telle que certains enfants, au lieu d'avoir du plaisir à aller à l'école, voient ça comme être plus nul, et les enquêtes PISA sont significatives. Le nombre de gamins en France, quand on leur pose une question, qu'ils n'osent pas répondre de peur de se tromper, on est les champions d'Europe de ce sujet-là, et c'est quand même grave, parce que l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. Si un gamin, il n'ose pas répondre de peur de dire une bêtise parce qu'on va se moquer de lui, c'est quand même dramatique, parce que tout le monde apprend en faisant des erreurs. Et c'est pas normal de pas voir ça. Le troisième point où j'insisterai, c'est l'histoire que les enfants, quand même, et ça les militants en ont parlé tout à l'heure, c'est le fait que les enfants, ils subissent quand même beaucoup de rejets par les autres enfants aussi à l'école. Hein ? On a écrit un petit bouquin que vous pourrez voir là-bas qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ». Et dedans, il y a tout un chapitre qui concerne les idées fausses et les préjugés, la façon dont on stigmatise des enfants à l'école. Celui qui se fait traiter de cassos parce que 3 minutes qui me restent. Ouais, ça va vite. Donc, celui qui se fait traiter de cassos parce que son père lui a dit que le père de l'autre, le cassos, justement, a touché le RSA et qu'il foutait rien, que c'était pas un travailleur et patati patata. Il y a quand même entre les enfants, et nous, ce qu'on dit, ce que nous apprennent les familles qui étaient là tout à l'heure, c'est qu'un enfant, pour apprendre dans un groupe, il faut qu'il soit accepté par les autres. Si l'enfant. Et tout à l'heure, il y a eu des exemples donnés de ça. Le gamin qui restait pendant je ne sais pas combien de temps sans aller à son lycée, etc., parce qu'il avait été agressé par un autre gosse auparavant. Dedans, il y a des choses dures. Et si un enfant, le nombre de situations de rejet ou de violence ou de moquerie, simplement, moi, dans l'endroit où j'habite, il y a un collège où ils se sont aperçus qu'une gamine, depuis le CP, tous les autres enfants à la campagne connaissaient sa famille. Et du coup, elle était considérée comme la pouilleuse. Et le prof s'en est aperçu parce qu'un jour, un élève qui n'avait pas de classe refusait de s'asseoir à côté de cette fille-là dans la classe. Et le prof a dû virer le gamin plutôt que de s'asseoir à côté de la fille, parce qu'il ne voulait pas se mettre à côté de la pouilleuse. Et des choses comme ça, et nous on en apprend tous les jours par des familles en grande pauvreté qui vivent ce genre de moquerie, de violence. Et puis en plus, on le sait tous, parce que ça ne concerne pas que les plus pauvres. Hein. Le nombre d'une fille obèse qui va se faire traiter de grosse vache par les autres dans sa classe, et machin. Des choses comme ça entre les enfants, en plus avec ce qui se passe au niveau des marques, des habits, d'avoir tant d'argent de poche, de ne pas en avoir. Il y a quand même énormément de trucs où un enfant peut finir par se sentir pas comme les autres dans sa classe. Et puis ça freine vraiment un enfant pour apprendre. Si on n'est pas accepté par les autres, on est quand même en difficulté pour apprendre. Donc, bon, je vais arrêter au niveau de l'analyse, parce qu'on me dit que j'ai plus qu'une ou deux minutes. Comment rapprocher les parents? Alors, nous, on a vu dans le travail qu'on a fait à Mourpa que redonner confiance en soi aux parents, c'est très important. Et on a vu que la confiance que l'enfant lui-même faisait dans ses capacités était très liée à la confiance des parents. Un enfant sans, hein, on a eu un fait qu'on a vécu à Mourpa avec une famille où deux enfants étaient petits, on avait pendant un an, on était en relation avec eux alors qu'ils n'étaient pas encore à l'école. Donc un an avant qu'ils entrent, que l'enfant, le premier, entre à l'école, on travaillait déjà avec la famille pour qu'elle ose y aller une fois que l'enfant rentrerait à l'école. Puis l'enfant est entré à l'école dans une classe passerelle, il n'avait pas encore 3 ans. Et une semaine après, il se casse une jambe. Le service social suspecte une maltraitance dans la famille. Menace de placement, les enfants passent chez la juge, etc. Par chance, on connaissait assez bien la famille, et on a écrit à la juge en lui disant qu'il nous paraissait impossible que ce soit de la maltraitance, parce qu'on voyait, on allait toutes les semaines chez les gens, et on était convaincus que c'était un accident et pas de la maltraitance. Donc la juge nous a suivis, il y a eu une mesure de, comment on appelle ça, action éducative, aide éducative renforcée pour soutenir les gamins qui restent chez lui. Et l'éducatrice de l'aide éducative et la maîtresse de la classe passerelle, au bout d'un moment, se sont aperçus que le gamin, quand la maman s'était fait vu reprocher des choses par la maîtresse la veille, donc elle venait à l'école amener son gamin en étant anxieuse, en étant persuadée que ça allait mal se passer. Et ce jour-là, le gamin, qui n'avait pas 3 ans, était perturbé toute la journée dans la classe, il faisait pipi sur lui, il était agité, il courait dans tous les sens. Maintenant, je suis à zéro, c'est ça que tu veux dire? Je vais me dépêcher. Donc un gamin de moins de 3 ans, s'il sent que sa mère ne fait pas confiance à l'école en y allant, parce qu'elle est anxieuse, parce qu'elle s'est sentie regardée comme une mauvaise mère la veille, le gamin, il ne pourra pas se comporter. Et les jours où, au contraire, la mère vient positive parce qu'elle a participé à quelque chose à l'école, elle a pu rester dans la classe, elle a vu des choses positives qui se passaient. Dans la classe passerelle, c'est des classes où il n'y a pas beaucoup de gamins. Et au début, les parents peuvent participer à la classe. Quand ça allait bien, le gamin était ouvert et disponible aux autres. Donc avant 3 ans, le gamin, c'est ce que je disais, si un gamin sent que ses parents font confiance à l'école, ou il sent que ses parents ont une aversion vis-à-vis du monde de l'école, ça change complètement la possibilité du gamin d'entrer dans les apprentissages et d'être disponible à l'école, simplement d'être disponible. Et les enseignants de RASED et tout savent très bien qu'est-ce que ça veut dire. Un gamin ne peut pas apprendre parce qu'il... Il n'est pas en état d'intégrer des apprentissages parce qu'il est trop avec une insécurité intérieure qui l'empêche d'apprendre. Donc on a fait tout un travail, mais je vais arrêter là parce qu'on aura l'occasion de reprendre le sujet. Et je vais mettre aussi un papier sur le site là pour que vous y ayez accès sur comment faire avancer la confiance des parents pour qu'ils viennent à l'école. Il y a plein d'étapes à franchir, des parents qui eux-mêmes ont été au fond de la classe quand ils étaient gamins. quand ils étaient gosses, ils ont une appréhension du fait de leur histoire vis-à-vis de l'école. Ils pensent que ça va être dur. Ils voient un mur, même s'il n'y a pas de mur, c'est comme s'il y avait un mur pour rentrer à l'école. Et donc, essayer de comprendre comment on reconstruit avec les gens une confiance en eux, une conviction que s'ils vont à l'école, ça va servir à quelque chose. Moi, c'est ce que je dis souvent dans les formations. Si les parents ne viennent pas, c'est parce qu'ils pensent que s'ils venaient, ce qu'ils pourraient apporter ne serait pas vraiment pris en considération et que donc ça ne sert à rien d'y aller. Donc il y a tout un travail pour que les parents aient confiance, qu'on va vraiment collaborer avec eux s'ils viennent, qu'on va les écouter et qu'ils vont servir à aider leur enfant à l'école. Voilà.
Voilà, c'est donc ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration, c'est une opération qui a été lancée à la fois par le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe d'immigration, de nationalité, toutes ces choses-là, et puis par le ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Intérieur, c'est ce qui s'appelait au départ la direction à l'accueil, à l'intégration et à la citoyenneté, et au ministère de l'Éducation nationale, la direction générale de l'enseignement scolaire, donc la direction qui chapeaute les écoles, les collèges, les lycées. Voilà. Ce dispositif prévoit que l'école élémentaire ou le collège, puissent accueillir des parents d'élèves d'origine étrangère, installés en France depuis plus de 2 ans, extra-communautaires, c'est-à-dire pas membres de la communauté européenne. Donc déjà, notre imaginaire voyage et va peut-être en deçà de la Méditerranée, bien souvent, pour leur apprendre le français, langue étrangère. Voilà. Donc ça, c'est pour des parents d'élèves d'origine étrangère depuis plus de 2 ans en France qui ont des difficultés avec la langue française orale ou écrite. Beaucoup de difficultés ou pas beaucoup, et bien évidemment, il faut qu'ils soient volontaires. Voilà. Le dispositif prévoit aussi que ces gens-là ont 120 heures de formation par an. Donc vous savez que l'année scolaire, c'est en gros 36 semaines. Voilà, 120 heures, ça fait 4 heures semaine. Donc c'est lourd, hein, 4 heures semaine. Ça veut dire que, et pour les parents, mais et pour l'établissement qui accueille, c'est lourd aussi parce que ça veut dire quasiment 2 demi-journées dans la semaine où les parents sont présents dans l'école. Donc il faut un lieu. Voilà, en gros, hein, le dispositif. Alors, quand ça a été proposé à l'ISER de le mettre en œuvre, il y avait déjà eu des expérimentations dans d'autres départements, dans le Rhône par exemple. Et en 2009, ça a été proposé à l'ISER de le mettre en œuvre. Et c'est arrivé, comme toujours, un peu ce qui arrive chez nous aussi dans les dispositifs de l'éducation nationale. C'était à mettre en œuvre pour peut-être avant-hier. Hein? Voilà. Il fallait qu'on ait des écoles volontaires, qu'elles fassent leur dossier pour presque avant-hier. Donc il a fallu accompagner les établissements. Dans notre département, effectivement, la directrice académique qui gère tout le département de l'Isère a décidé que ce serait plus dans les écoles que dans les collèges, ce qui est déjà un petit peu atypique au niveau de la région, et puis que ce ne serait pas encadré par des enseignants, mais encadré par des intervenants associatifs. Et on a passé un partenariat avec l'association ADAT. Alors, ADATE, c'est ADATE, c'est toujours le même sigle, mais récemment ils ont changé de nom, mais en gardant le même sigle. Et je n'ai pas retenu le nouveau nom, j'ai toujours l'ancien, qui est l'Association Dauphinoise d'accueil des travailleurs émigrés. Voilà. Association avec laquelle on a déjà des partenariats sur d'autres choses. C'est une association qui gère à la fois des centres d'hébergement, hein, d'urgence, qui s'occupe aussi de l'accueil et du suivi des jeunes migrants mineurs, hein, des mineurs isolés. Et puis, qui travaille aussi sur l'interprétariat, l'accès aux droits des travailleurs immigrés, et qui travaille dans la médiation pour ces personnes-là, dans la médiation famille-école. Donc, on avait déjà des partenariats avec eux engagés, et on a engagé un partenariat aussi, donc, sur ce que des animateurs de la DAT viennent proposer des cours de français langue étrangère aux parents d'élèves des écoles concernées. Ça fait pas beaucoup d'écoles dans le département, hein. On a 11 ateliers, 9 écoles, 2 collèges. Ça fait vraiment pas beaucoup parce que, par exemple, on a 96 collèges, donc 2 collèges en atelier, ça fait vraiment pas beaucoup. Et on a quelque chose comme 500 et quelques écoles. Donc, vous voyez, 11 écoles en atelier sur 500, c'est pas... Voilà. Mais on peut pas faire plus parce que derrière, il y a des budgets du ministère de l'Intérieur et qui sont pas extensibles. Je vais revenir un peu sur le titre. Alors, les parents. ça pose des questions une fois qu'on se dit, qu'une équipe dit, moi j'aurais bien mettre ça en place parce que je sens que sur mon quartier, il y a des parents d'élèves là avec qui on a du mal à communiquer parce qu'il y a la barrière de la langue. Et on se demande comment peut-être ils pourraient mieux parler avec nous, on pourrait mieux échanger pour parler des enfants en français parce qu'on ne connaît pas toutes les langues du quartier. Alors, oui, très bien, mais comment on choisit les parents? C'est une question qui se pose quand on veut mettre un atelier en place. Comment on les informe? Par quel canal? Avec quels alliés? Quels partenaires? Sur quel support? Avec quel contenu? Qu'est-ce qu'on offre? Parce que, a priori, on se dit, c'est intéressant ça. Pour une fois que l'école, gratuitement, offre des cours de français, langue étrangère, à des parents d'élèves, on se dit quand même symboliquement, c'est intéressant. Mais après, il faut se dire, oui, mais ça vient d'en haut quand même, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils en attendent, les ministères, de ça? Parce que derrière le titre, il y a ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration. De qui? Des parents? Alors on sait que l'intégration, c'est pas que par la langue. C'est par les réseaux sociaux, c'est par la vie dans le quartier, par l'emploi, hein, par des choses comme ça. Alors, est-ce que ça voudrait dire que peut-être ce serait pour mieux intégrer les enfants, parce que pour que les enfants soient bien intégrés à la société, il faudrait que leurs parents parlent bien la langue française. Or, il y a des tas de recherches, je parle sous contrôle de presque tout le monde ici, qui nous ont montré qu'il n'était pas utile de parler bien le français à la maison pour que les enfants apprennent le français à l'école. Bon. N'empêche que ce titre, il aurait tendance à nous faire dire que le problème, il est sur les personnes qui vont venir dans l'atelier, quoi, peut-être. Hein, parce que il faut qu'on leur apprenne le français. Pourquoi? Surtout que dans l'apprentissage, il y a trois volets. La langue française, les symboles de la République et de la citoyenneté, et la connaissance de l'école. Alors l'autre question, c'est comment on travaille tout ça? Est-ce qu'on croise, en partant de ce que vivent les gens, est-ce qu'on croise ces trois choses-là, la langue, la citoyenneté et l'école? Ou est-ce qu'on fait, parce que du coup, j'ai essayé de chercher, j'ai vu que ça se fait dans certains endroits, on fait un trimestre la langue, un trimestre la citoyenneté, une fois qu'on a la langue, on peut travailler la citoyenneté, et un trimestre l'école. Bon, nous on n'a pas choisi ça, on a choisi avec la date de travailler tout croisé, à partir de ce que vivent les gens, et à partir des outils de l'école. Cahiers de liaison, les cahiers de classe pour les enfants d'élémentaire, les informations que transmet l'école aux parents. En collège, c'est le carnet de correspondance. Voilà, on part des outils de l'école. Mais n'empêche que, il faut quand même être vigilant à, j'allais dire, à ce qu'on attend. Ben justement, quand on travaille avec les équipes qui mettent ça en place, surtout, ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est que, non, nous, on n'a aucune attente. Aucune attente vis-à-vis de ces parents qui, soit dit en passant, soit 99,9% des mamans. On peut espérer que, avec la langue française, elles osent entrer, elles osent dire bonjour, elles osent poser des questions, mais d'attente, surtout pas. Si on veut que les gens aient, se donnent l'autorisation de parler, se donnent l'autorisation d'adresser la parole, il ne faut surtout pas qu'on soit en attente. Parce que si on attend, on est en attente, on bloque déjà tout. Donc il y a un gros travail qu'on fait avec les équipes déjà sur ce côté-là. L'autre côté, il est que quand on voit sur les écoles, surtout sur les écoles, moins sur les collèges, sur les écoles qui accueillent ces dispositifs-là, c'est pas la directrice ou le directeur d'école qui a pris l'initiative. C'est toute l'équipe. Et c'est important que ce soit toute l'équipe. Parce que déjà, matériellement, accueillir 12 à 15 parents, deux fois par semaine, deux heures, ben ça fait qu'on n'utilise pas la salle de motricité ou la BCD. Et donc, ça veut dire bien que c'est une priorité de l'équipe de faire ça. Et qui dit priorité de l'équipe, ça veut dire que ben derrière, il y a, comment dire, une posture d'aller vers ces mamans qui viennent à l'atelier aussi. Même si on n'attend rien, eh ben, on s'ouvre aussi et on ouvre la classe. Parce que ça veut pas, c'est pas parce que les parents viennent à l'école que forcément la classe est ouverte. Et quand on parlait ce matin de mutuelle connaissance, peut-être que les parents, oui, vont connaître l'école à travers le travail qu'ils font dans l'atelier. Mais est-ce que les enseignants qui ne sont pas dans l'atelier vont connaître les parents? Pas sûr. C'est pas sûr non plus, même si c'est un enseignant qui fait ça pour avoir échangé avec les autres départements qui mettent ça en œuvre. Parce que généralement, c'est un enseignant spécialisé en français, en langue étrangère aussi, qui s'occupe des enfants dans les classes de rattrapage intégré ou les classes d'accueil, et qui n'a aucun lien avec les équipes de l'école concernée. Et puis l'autre question qui se pose, c'est réussir. Alors réussir, moi je préférerais favoriser, parce qu'à la limite, oui, on peut essayer de favoriser l'intégration, mais même intégration. Intégration, ça pose question. Parce qu'intégration, dans notre imaginaire collectif, ça veut dire qu'on demande à ceux qui ne sont pas intégrés de s'intégrer dans une normalité qu'on ne sait pas trop de quoi elle est faite, mais d'un imaginaire collectif de nationalité française. Juste pour mémoire, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mot intégration a fait beaucoup parler de lui juste avant Noël, là, au mois de décembre, parce que le gouvernement avait commandé 5 rapports sur l'intégration. Je vous incite vraiment à aller les lire. D'abord, ils sont encore sur le site du Premier ministre, à l'onglet dossier de presse ou communiqué de presse, mais ils sont aussi sur le site du Centre Alain Savary, à l'IFE, ici. Voilà. Je vous recommande de les lire parce que, franchement, ça vaut bien plus que ce qui en a été dit au mois de décembre, et ça éclaircit les idées sur ce que pourrait être l'intégration et autre chose. Après, ce qu'il faut bien se garder de faire, avec toute la bonne intention qu'on a, j'arrive pas à lire, excuse-moi. 5 minutes, d'accord. Mais voilà, moi je pose que des questions, parce qu'on n'a pas les réponses. Mais c'est que, oui, pourquoi pas apprendre le français aux parents d'élèves qui ne maîtrisent pas la langue française dans le quartier. Pourquoi pas? Mais il faudrait qu'on fasse attention au raccourci à ne maîtrise pas la langue française, donc ne comprend pas les règles. Donc, l'enfant ne comprendra pas non plus, il sera perturbateur. Il faut qu'on fasse attention à ces raccourcis-là, que parfois les titres et l'application nous incitent à mettre en œuvre. Il faut qu'on fasse attention à ce que, en ciblant ces parents qui ne savent pas la langue, on ne fasse pas porter la responsabilité d'une difficulté sur eux, parce qu'ils ne connaissent pas la langue. Et souvent, on entend dans les écoles, on ne sait pas quoi faire ou que faire avec les parents. On l'a encore redit ce matin, je crois. Et ça nous pose problème. Et puis, par un raccourci, c'est pas ça qui nous cause problème, c'est les parents nous posent problème. Donc, on va leur apprendre le français. Toutes ces questions-là, les équipes qui mettent en œuvre ce dispositif essayent de se les poser. Et du coup, c'est aussi un peu pour ça que c'est une association qui travaille, parce que l'association a du recul par rapport à l'éducation nationale, même si elle est partenaire de l'éducation nationale. L'association et les intervenants qui interviennent sont aussi dans le quartier, dans l'accompagnement des familles à l'accès aux droits. Elles sont dans les permanences du centre social. Donc, elles n'ont pas leur regard, enfin les intervenants qui viennent n'ont pas leur regard, éducation nationale, même si ça se passe dans les locaux de l'éducation nationale, avec les outils qu'utilisent les élèves. Après, ce que nous dit, depuis 4 ans maintenant qu'on a le recul, c'est que les parents qui sont là-dedans, oui, font des progrès en maîtrise de la langue orale. Et effectivement, le fait d'aller quand même 2 fois par semaine à l'école ou au collège, ces mamans, elles osent pousser le portail, elles osent rentrer dans l'école, parce que ça fait partie maintenant de ce qu'elles font déjà 2 fois par semaine. Et puis, en maîtrisant un peu la langue, elles disent bonjour aux enseignantes, aux ATSEM. Elles osent poser des questions sur ce qui s'est passé, déjà, sur ce qui s'est passé. Et puis après, sur ce que vit l'enfant. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, dans une nouvelle directive qui est arrivée il y a 1 an, on limite la participation à ces groupes à 2 ans de présence, guère plus. Or, on s'aperçoit que dans ces groupes-là, il y a une hétérogénéité très forte entre des mamans qui ont été scolarisées jusqu'à 12 ans, par exemple, dans leur pays d'origine, d'autres jusqu'à 16 ans, d'autres qui étaient cadres, infirmières, kinésithérapeutes dans leur pays d'origine et qui sont arrivées en France parce que la situation de leur pays fait qu'elles ne plus, ils peuvent plus vivre chez eux. Mais il y en a d'autres aussi qui arrivent de pays où il n'y a pas de scolarisation de filles, où les mamans, ou même des hommes, n'ont pas été à l'école au-delà de 6 ans, voire même pas du tout. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont y compris, je vais le dire, analphabètes dans leur langue d'origine et ne connaissent pas la langue française. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour le travail de l'animateur que de travailler avec des gens qui maîtrisent déjà bien leur langue d'origine, à l'écrit et à l'oral. Mais ce qui fait vivre aussi aux parents, ce qui se vit dans une classe à l'école, que ce groupe-là, il n'est pas le même non plus dans la classe. Les enfants, comme vous disiez tout à l'heure, ne sont pas tous les mêmes et que du coup, l'animateur, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il est bien obligé de partir de ce que sont les gens et parfois du voyage qu'ils ont fait aussi et de la migration qu'ils ont fait ou subi. Enfin, voilà. Enfin, toutes ces questions, c'est vraiment des questions du sens. C'est-à-dire que voilà, on a un outil qui est intéressant, mais pourquoi on le met en œuvre et pourquoi faire ? Et c'est ça qui est le passage obligé pour les équipes qui veulent rentrer là-dedans, parce que si on ne réfléchit pas à comment on met en place ce dispositif, on est très vite dans tout ce qui a été dit ce matin, quelque chose qui part d'une bonne intention, mais qui peut stigmatiser, qui peut mettre de côté, montrer du doigt toute une partie de population, parce que, je le répète, on est sur des parents d'origine étrangère qui ne maîtrisent pas la langue française. Donc, quelque part, on cible une catégorie sociale, il ne faudrait pas qu'on la cible en la stigmatisant.
Merci, Jean-Pierre.
Il ne faut pas vous endormir quand même. C'est l'heure de la sieste, mais...
Du coup, juste une petite interaction. Est-ce que vous croyez qu'une piste de solution, ce serait avec des gens qui participent à l'école ouverte aux parents, hein, c'est ça en fait le projet, de les solliciter, enfin, j'aimerais bien faire ça, pour ça que je vous demande, c'est un peu égoïste, les solliciter pour que dans leur langue maternelle, ils apportent aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait créer une chorale en chantant des chants africains, et puis,
par des contes, par des
voilà.
Oui, alors c'est un des...
Avec des enseignants, pour le coup, des enseignants qui apprendraient des chansons dans la langue maternelle, ça résoudrait deux problèmes, je crois, ou j'espère, surtout, ce que disait Bruno Maturel, la langue maternelle de ces enfants-là, même on leur reproche souvent, enfin, s'ils ne sont pas parents, s'ils sont bilingues, mais que les parents parlent pas anglais ou espagnol, on commence à reprocher l'africain ou le turc, etc., aux familles plutôt.
Oui.
Donc, je me dis que ce serait peut-être une solution pour que les enfants soient fiers de ce qu'ils sont, d'où ils viennent, et que les parents aient quelque chose aussi à offrir à l'école, puisqu'ils sont très demandeurs d'apporter. D'ailleurs, quand on demande de faire des gâteaux à l'école maternelle, les parents
des niveaux
populaires sont les premiers à les faire. Hein.
Ah. Alors, j'allais vite revenir là-dessus. Effectivement, c'est un travail qui est fait. Après, il faut bien voir que les équipes d'école qui se lancent dans ce projet-là sont des équipes qui ont déjà réfléchi à la place des élèves dans la classe, à la place de leur langue d'origine. Aucune de ces équipes d'école, par exemple, ne remet en cause que ce soit la langue d'origine qui soit parlée à la maison. Ça, c'est voilà, pour ces équipes d'école-là, en tout cas. Bien évidemment. Après, oui, il y a des groupes qui, par exemple, ont fait des livres de recettes, mais traduit dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'il y a une recette qui est amenée par une maman, peut-être du Togo, ou du Cameroun, ou autre, ou de Roumanie, parce que j'ai dit extra-européenne, mais les collègues, comment on va dire, sont intelligents parfois plus que les textes. Et que il y a des exceptions dans l'accueil de certaines familles qui ont envie d'apprendre le français comme d'autres, mais qui sont de pays maintenant européens, mais qui pourtant vivent des situations parfois aussi dramatiques que celles de parents d'autres pays non européens. Voilà. Donc voilà, il y a des travaux comme ça, effectivement, qui sont faits, par exemple, à partir des recettes, effectivement, traduites dans toutes les langues, dont le français, bien évidemment, et sur les chants aussi. Parce que ce sont des équipes, quand même, qui sont aussi un peu mobilisées, quand même. Juste une dernière question, parce que moi, j'ai oublié de soulever une question qui me semble primordiale, et que je vais peut-être mettre le pied dans le plat, je ne sais pas, mais en tout cas, pendant 3 jours, vous allez parler des relations avec les parents. Il ne semble pas que vous auriez pu éviter ça. ces mamans qui viennent essentiellement ces mamans qui viennent aux ateliers, elles sont considérées comme stagiaires adultes hein, quand elles viennent à l'école ou au collège. Donc elles ont le droit de rentrer dans l'école avec un foulard sur la tête. Ces mamans deviennent parfois des alliés de l'école. On en a même une qui est devenue parent d'élève hein, au conseil.
Déléguée.
Et qui est déléguée de parent d'élève. Voilà. Mais on parlera de loyauté après, parce que ça n'a pas été bien vu par sa communauté, entre guillemets aussi. Ces mamans qui vont devenir des alliés, d'une part, est-ce qu'on va les considérer toujours comme des alliés lorsque elles remettront en cause notre décision pour le redoublement, au maintien, maintenant c'est le maintien dans le niveau, pour l'orientation en SECPA, peut-être. Hein, est-ce qu'on sera toujours content de les avoir invitées à apprendre le français quand elles seront là pour nous dire « Attendez, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous proposez pour nos enfants ». Et est-ce qu'on sera toujours d'accord lorsque ces mamans-là, qui étaient autorisées à rentrer avec le voile dans l'école parce qu'elles venaient en stage, se rendront volontaires pour accompagner une sortie scolaire ? Ou se rendront volontaires pour venir aider à faire l'atelier cuisine d'une recette qui a été proposée dans l'atelier ? Alors qu'elles voudront rentrer avec le voile.
Bien, je propose que nous passions la parole à Jessica Poutet.
Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis doctorante en sociologie à l'Université de Savoie et je travaille un peu à la marge des questions qui ont été abordées depuis le début de la matinée, puisque je travaille sur la fabrique et la mise en œuvre de la politique de soutien à la parentalité. Donc c'est une politique publique assez récente qui tend à s'institutionnaliser hein, en France mais aussi de partout en Europe. Et je pense que quand on parle de soutien à la parentalité, on a aussi une vision hein, de ce qui est attendu aujourd'hui des parents, a fortiori parce que dans ces dispositifs très hétérogènes de soutien à la parentalité, il y a tout un ensemble hein, de dispositifs comme celui qui vient d'être présenté, ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration, qui concerne bien la parentalité scolaire. Donc, concernant les initiatives de soutien à la parentalité, je peux vous renvoyer d'ores et déjà au rapport du Centre d'analyse stratégique qui s'appelle « Aider les parents à être parents » qui a été coordonné par un sociologue, Claude Martin, et qui fait état de toute une série d'initiatives intéressantes concernant l'accompagnement des parents et sans omettre hein, d'avoir une distance critique, en fait, avec tous ces dispositifs et d'en produire une analyse assez fine. Voilà, donc cette parenthèse fermée. Oui ?
Ça veut dire quoi,
parentalité, en fait, ça désigne le fait d'être parent, enfin, le processus, tout ce que l'on peut faire avec ses enfants, en fait. C'est la façon d'être et le fait d'être parent aujourd'hui, et c'est un terme qui est assez récent et qui connaît une utilisation en ce moment, enfin un emploi très important. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour évoquer avec vous mes travaux de recherche, mais c'est plus parce que je suis aussi chargée de mission nationale sur les questions de lutte et de prévention contre les situations d'illettrisme au sein de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc rapidement, je peux vous dire que c'est un groupement d'intérêt public qui coordonne hein, les initiatives et qui impulse la politique publique de lutte contre l'illettrisme, qui est une politique interministérielle et donc est aussi largement partenariale. Donc je suis plus spécifiquement en charge du coup des actions, du développement des actions de prévention, même si la prévention, on remarque aujourd'hui qu'elle tend vraiment à être absorbée hein, et reprise par le ministère de l'Éducation nationale, qui en fait une de ses priorités. On s'en rend compte d'ailleurs dans la nouvelle circulaire de rentrée scolaire. Dans la nouvelle circulaire de rentrée scolaire, il y a cette question hein, on veut renforcer le lien entre l'école et les familles, créer des espaces parents, et il est également fait mention des actions éducatives familiales, et c'est précisément de cette démarche que je vais vous parler dont je vais vous parler ici. Donc la démarche des actions éducatives familiales, c'est un projet qui démarre en 2008. À l'époque, on a le Haut Commissariat aux Solidarités Actives avec Martin Hirsch, qui propose de lancer une expérimentation en fait pour à la fois lutter contre les situations d'illettrisme et en même temps favoriser la réussite éducative des enfants dont les parents sont concernés par ces situations donc d'illettrisme. Et donc à ce moment-là, l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme va s'emparer du projet, va le coordonner en partant déjà de ce qui existe hein, sur le territoire national. Donc ces actions, actions éducatives familiales, ça regroupe des actions très hétérogènes. On ne peut pas dire, enfin j'imagine que pour le dispositif ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration, il y a aussi des choses très différentes qui se font selon les contextes locaux. Là, on est sur des actions vraiment à géométrie variable, mais qui concourent toutes à ces deux objectifs, hein, que sont la prévention et la lutte, en ayant une action auprès du parent, alors une action de formation, le plus souvent de formation de base, c'est-à-dire formation aux compétences de base, et en même temps en proposant aux parents tout un étayage sur les questions scolaires. Donc il peut s'agir d'un étayage relatif aux questions d'orientation. On sait que ce sont des questions qui sont particulièrement anxiogènes pour les familles les plus éloignées de l'école. Ou encore, disons que les questions de formation peuvent être abordées dans ces dispositifs à partir justement de l'objet scolaire, des objets scolaires, donc les agendas, les cahiers de textes des enfants, mais aussi les emplois du temps. Voilà. Donc ce que je n'ai pas précisé, et peut-être que ce serait utile de le faire, c'est qui est en situation d'illettrisme et quelles sont les spécificités ou quelle est la spécificité de ces publics hein, par rapport à ceux, par exemple, qui sont concernés par d'autres dispositifs. Donc la personne en situation d'illettrisme, ce qui est particulier, c'est que c'est une personne qui a été scolarisée en France ou en langue française, et qui, une fois sortie du système scolaire, donc on considère en général les personnes âgées de 18 à 65 ans, hein, pour faire partie de cette catégorie du coup de l'action publique, qui, une fois sortie du système scolaire, ne maîtrise pas les compétences de base. Alors les compétences de base, c'est lire, écrire une information simple, hein, portant sur la vie quotidienne, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi des compétences en numératie, savoir dénombrer par exemple, ou encore on se rend compte que ces personnes en situation d'illettrisme, elles éprouvent des difficultés aussi à s'orienter, à se repérer dans l'espace. Donc ce n'est pas que la lecture et l'écriture. Concernant la spécificité de ces publics, je dirais que ce qui est complexe, et notamment s'agissant du rapport à l'école et à l'environnement scolaire, c'est qu'on n'est pas avec des personnes qui sont migrantes. C'est-à-dire qu'elles connaissent hein, l'environnement scolaire français et qu'elles ont en général, pour ne pas dire à tous les coups, nourri on parle de disqualification, c'est-à-dire qu'il y a eu une disqualification scolaire qui a pu s'opérer, c'est-à-dire qu'elles sont sorties de ce système en échec. Un parent migrant, il n'a pas les mêmes difficultés à rentrer dans un dispositif de formation. Ce sont pas les mêmes obstacles, en fait. C'est beaucoup plus dur pour quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, je crois, parce qu'à un moment donné, il y a eu tout ce passif très lourd avec l'école et on doit retourner pour renouer avec les apprentissages et avec les savoirs de base. Ça suppose que l'on puisse remettre en question aussi ce passif et progresser. Et c'est pour ça que ce qui est très, très important quand l'on s'adresse aux parents en situation d'illettrisme, c'est de pouvoir leur s'adresser de façon appropriée. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient hein, pour favoriser l'engagement en formation de ces personnes. C'est par exemple les stratégies, enfin nous on appelait ça les stratégies de sollicitation croisée, c'est-à-dire quand plusieurs personnes vont voir le parent pour lui signifier la même intention. On s'est rendu compte que quand c'est une personne relais sur un territoire qui va s'adresser aux parents pour lui proposer, voilà, pour lui dire, écoutez, il y a une formation qui existe sur, dans le quartier et vous êtes aussi concernés par cette action. Donc on s'est rendu compte que quand c'est l'enseignant de l'enfant qui délivre ce message, mais aussi un travailleur sociaux ou encore Enfin voilà, donc il faut multiplier quelque part les messages qui sont adressés. Alors l'idée de ces actions éducatives familiales, et je vais y venir, c'est du coup une action de formation menée avec des adultes parents et pour qui la non-maîtrise des savoirs de base rend difficile l'accompagnement de la scolarité et les contacts avec l'école. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces parents vers une transformation de leur rapport à l'école, tout en les aidant à développer des compétences de base qui puissent ensuite leur servir de support pour mieux vivre au quotidien. Donc, j'ai dit qu'on avait considéré des actions très hétérogènes, donc je ne vais pas pouvoir vous fournir un modèle type d'action. En revanche, je suis venue avec un petit film qui est en lien aussi, parce qu'on a toute une page consacrée aux actions éducatives familiales sur le site EduSCOL du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, je suis venue avec un film qui vous permettra de voir un petit peu plus concrètement ce qui peut se passer dans ce type d'action et quelles en sont les retombées, je vais dire, enfin, quels sont les constats que les parents eux-mêmes font lorsqu'ils participent à ce type d'action. En revanche, on distingue différents niveaux d'action éducative familiale. Donc nous, on a un petit peu dégagé certains critères et dégagé trois paliers, en fait, d'intervention. Alors la première, c'est ce qu'on se dit, c'est que pour qu'il y ait une meilleure prise en compte des publics en situation d'illettrisme, il faut aussi qu'il y ait une meilleure connaissance de ces situations, et notamment une meilleure connaissance de ces situations chez les enseignants, et chez tous les personnels de l'éducation nationale, parce que ce sont bien eux qui sont aussi... Enfin, on sait que la majorité des parents vont à un moment donné, fréquentent un établissement, un groupe scolaire. Donc le premier palier de cette démarche, le premier niveau d'action, on va dire, c'est une action de sensibilisation et de formation des acteurs professionnels aux thématiques de l'illettrisme, mais de façon plus spécifique de la parentalité en situation d'illettrisme. Quelles sont les difficultés, les obstacles que rencontrent ces personnes-là? Et là, en ce sens, on a conduit un travail qui fait suite à l'évaluation de cette expérimentation nationale, qui est tout un travail d'outillage. Donc on a appelé ça un kit pédagogique. Il est aussi en ligne sur la page EduSCOL du ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, ce kit, il est pensé de sorte à ce qu'une personne qui a été, on va dire, sensibilisée sur cette question-là puisse s'emparer du kit pour proposer à ses équipes ou au sein de son établissement une espèce de sensibilisation en cascade. C'est un kit qui a été testé, par exemple, dans les plans académiques de formation des enseignants avant que l'on en établisse une forme un petit peu plus définitive telle qu'elle existe aujourd'hui sur la page EduSCOL. Donc ça, c'est un premier palier d'intervention, faire en sorte qu'un maximum de professionnels et de bénévoles qui rencontrent dans leur pratique professionnelle des parents soient aiguillés, aient une meilleure connaissance de ces situations et de ce qu'elles impliquent pour les parents, pour l'accompagnement à la scolarité et pour leurs enfants. Le second palier, ce sont des actions que l'on a appelées de remobilisation parentale sur les savoirs de base. Et ainsi qu'une orientation, enfin une possible orientation de ses parents vers des actions de formation. Donc là, par exemple, j'ai en tête une action que je suis allée observer il y a peu de temps. Elle prend forme dans les Bouches-du-Rhône. En fait, elle consiste, cette action, mais encore une fois, il n'y a pas de modélisation type. Elle consiste en un atelier qui prend lieu une fois par semaine dans les locaux d'une école maternelle. Donc cet atelier est réservé aux parents. Il est adossé à des classes de toutes petites sections. Vous savez que cette année, on expérimente à nouveau les classes de tout petits. Et dans cet atelier, il est proposé aux parents, en fait, de jouer à des jeux de société avec leurs enfants en compagnie d'un animateur. Et donc, l'enseignante est de la classe est partenaire. Il y a deux animateurs d'un centre social qui sont là pour animer l'atelier. Et en même temps, dans cette école, l'équipe est sensibilisée à ces problématiques et donc a une bonne vue de ce qui existe dans le champ de la formation au savoir de base et peut orienter certains parents, si nécessaire, vers des actions de formation. On peut prendre en compte, du coup, ces situations. Enfin, le troisième palier de cette démarche, action éducative familiale, on est vraiment là dans des actions de formation au savoir de base. On est c'est vraiment dans le champ de la formation, sachant que la formation se fait, comme je vous le disais, à partir de ce qui entoure l'école, c'est-à-dire et des objets scolaires. Donc, c'est-à-dire les mots que ramènent, par exemple, les enfants dans la famille et qui posent si souvent problème. Tout le travail autour des compétences de base s'effectue à partir de ces supports. Alors, ce qui est intéressant de toute cette expérience, après je vais vous proposer le film, c'est que du coup on en a extrait quand même une méthodologie d'action à destination des familles et qui a fait bouger certaines pratiques professionnelles. Donc parfois ce qui a pu bouger, ce sont des pratiques de classe, on pourrait appeler ça comme ça, des pratiques de classe ordinaire. Par exemple, ce sont des enseignantes qui nous disent que maintenant, elles ne transmettent plus d'informations via des mots dans les cartables des enfants, d'autres façons de s'adresser aux parents et de communiquer avec eux. Et puis du côté des parents, évidemment, le fait d'être en apprentissage, ça crée aussi d'autres conditions pour l'apprentissage des enfants et ça rend possible d'autres choses. Donc sur la façon de procéder, oui, on verra ça dans le film, il y a une modalité d'action qui me semble particulièrement pertinente, c'est celle du chercheur collectif, c'est celle qui aide, qui nous a montré en tout cas au regard de cette expérimentation que les pratiques professionnelles pouvaient bouger pour un certain nombre d'acteurs. C'est le chercheur collectif, ça a été mis en place en fait par une personne qui est chercheur, qui s'appelle Anne Vinerier, qui a travaillé ça avec des personnes en situation d'illettrisme. Et l'idée, c'est de pouvoir questionner, tous autant qu'on est autour d'une table, que l'on soit travailleur social, que l'on soit enseignant, que l'on soit parent. Il s'agit de partir des compétences des uns et des autres pour questionner des représentations réciproques. Donc, mais là, je pense que dans la vidéo, deux parents vont pouvoir témoigner de ce que ça leur apporte, ce groupe chercheur collectif.
Alors, je suis un petit... Voilà, c'est qu'elle est assez... Elle est assez longue, la vidéo, donc est-ce qu'on peut regarder qu'une partie ou...
On pourra peut-être, on va laisser le début et après je pourrai couper.
Oui, si tu peux, pour vraiment laisser le temps au débat. Parce que je pense que vous avez tous des expériences ou des récits d'expériences ou des observations où il serait intéressant par rapport à ce qui a été, les pistes qui ont été ouvertes à la table ronde, d'interroger toutes ces pratiques que vous voyez autour de vous, ces tentatives ou... Pas seulement les décrire, mais aussi se poser des questions. Est-ce que ce qu'on fait, ça favorise vraiment l'objectif que je me suis fixé ?
Qui est action éducative et familiale.
Ça, c'est une action qui se déroule dans un Greta.
En place pour le mois de décembre 2010. Donc j'avais 3 mois et c'est là où j'ai découvert quelque chose qui, dans un premier abord, semblait très complexe, mais quand elle a commencé à rentrer là-dedans, on a trouvé la richesse, mais extraordinaire, de ce type d'action. De la scolarité, c'est 16 ans, mais à partir de 16 ans, il n'y a plus d'obligation scolaire. Et le décrochage scolaire est un fléau contre lequel je sais que l'éducation nationale est mobilisée. Mais quand on le fait seulement dans le cadre du curatif, on arrive à apporter des solutions qui peuvent être satisfaisantes, mais ne le sont jamais à 100%. Pour moi, l'action éducative familiale qui réunit parents et enfants, et de les suivre dans la durée, c'est un élément préventif des décrochages scolaires et de la réussite scolaire par conséquent.
Ce qui est compliqué, c'est de venir. C'est cette démarche de venir. Comme beaucoup sont venus par l'intermédiaire de personnes en qui ils avaient confiance, ça s'est bien passé. Et puis, une fois qu'ils sont là, on assume tout parce qu'il n'y a pas de jugement, parce que chacun a des choses qu'il ignore et sur lesquelles il doit progresser. Et ici, on n'a pas une étiquette, t'es formateur, t'es apprenant, t'es directeur d'école. Non, on est parents et on avance.
Dans cette ville, les acteurs qui touchent à ces problèmes de la lutte contre l'illettrisme et de la réussite éducative, j'avais aucun mal à les mobiliser. Par contre, la partie la plus difficile, c'est de repérer les parents qui pouvaient être concernés par ce type d'action. C'est pour ça que l'amorçage de l'action au démarrage était le plus difficile. On a mis un temps extraordinaire avant de pouvoir toucher les premiers parents. Mais une fois qu'on a les parents, par la suite, le bouche à oreille, les échanges entre les parents qui parlent à la sortie des écoles, quand ils rencontrent d'autres parents, ça permet de faire venir d'autres parents.
C'est une amie à moi qui m'a fait venir, parce qu'elle était déjà là. Et elle m'a dit, bah, viens voir si ça t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas, tu t'en vas. J'avais plus besoin, c'était par rapport aux devoirs de mes enfants, de mon fils. Donc, tout ce qui est conjugaison, voilà. Je voudrais qu'il travaille bien à l'école, qu'il ait après un beau métier.
Ce matin, il y avait Laurent. Donc, Laurent, lui, est venu par l'intermédiaire d'une infirmière du SAMSA. Laurent travaille en horticulture. Il avait envie de réapprendre le français et certains savoirs de base.
J'ai trois enfants qui sont des gens différents. Et je suis venue ici pour aider les enfants au devoir.
J'ai hésité un petit peu. Je suis venue, mais j'ai hésité. Je ne connaissais pas les gens, donc voilà. Et puis, les personnes qui étaient là, ils m'ont tout de suite mis à l'aise. Il y avait ma copine déjà, donc ça m'a... Et en fil de temps, d'y aller, je me suis mis à l'aise. Puis j'aime bien cette ambiance. Ça fait un an déjà que je suis là, pour l'AEF.
Ils viennent pour leurs enfants. Et petit à petit, en fait, c'est eux qui vont évoluer et finalement, ils vont faire les choses pour eux. Et c'est en avançant eux qu'ils vont faire avancer leurs enfants.
Ça a été très difficile parce qu'il a fallu faire un choix. En disant, soit je vais là et je progresse, soit je reste dans mon petit coin et je prends plus rien.
On est dans la maison de quartier des Pré-Saint-Jean. Qui est un des partenaires du GRETA sur l'action éducative et familiale. Partenaire parce qu'il nous accueille tous les lundis matins pour qu'on puisse faire l'atelier avec les parents. En fait, normalement, un atelier, on commence par le tour des bonnes nouvelles ou des premières fois. Enfin, chacun écrit un texte. Ça permet du coup d'apprendre le français, enfin de travailler le français à partir des idées, des témoignages en fait des parents.
On y vient le lundi et deux fois dans la semaine. Il y a de la conjugaison, on parle aussi du budget, on a aidé un petit peu dans le budget quand il y a besoin.
Selon ce qu'ils vont avoir écrit, eh bien oui, on va travailler sur la conjugaison, mais d'après ce qu'eux ont écrit.
Le GRETA coordonne l'ensemble de l'action, y compris le chercheur collectif.
C'est une fois par mois pour faire une recherche collective. Donc c'est une dame qui vient une fois par mois et qui apporte les rapports qu'on a fait le mois d'avant. On rediscute des sujets qui ont été abordés et comment on pourrait peut-être les corriger.
Un chercheur collectif regroupe l'ensemble des partenaires. Quels sont-ils ces partenaires? Les partenaires, c'est d'abord, puisque c'est une action éducative familiale, c'est l'école. J'avais aussi le bonheur d'avoir la maison de quartier, des associations, le Grand Chalon, le PRE de Chalon-Sersonne, sans oublier bien sûr les services sociaux qui participent activement à ce chercheur collectif. Et le rôle de GRETA, c'est bien sûr de coordonner ce chercheur collectif et de maintenir le lien avec tous les partenaires pour que, bien évidemment, l'action éducative familiale remplisse son rôle totalement. Et c'est quand on réunit toutes les personnes qui sont concernées par le problème de l'illettrisme qu'on arrive à avancer ensemble. La parentalité est un élément important dans l'apprentissage que suivent ses parents.
Quand il y a des réunions de parents-élèves, j'y vais. Je le suis quand même pour ses devoirs et puis pour ce qui évolue, quoi. Puis quand il y a un souci avec un 13, j'y vais. Je vais moi-même. Le papa n'y va pas, mais moi j'y vais.
Les parents ont pu investir l'école, ont pu participer à l'activité de l'école et l'école a pu s'ouvrir aussi à ses parents.
Oui, je vois que je suis une maman et j'ai pas besoin de me demander à côté d'assumer mon fils. Ça me fait du bien, quoi.
Eh bien, j'aime mieux affronter la maîtresse et le directeur de l'école. Avant, je ne le faisais pas. Ça a été un bon avant-point. Maintenant, j'arrive à dire avec la tête haute, voilà, Maintenant, je suis là, je suis papa, je suis leur papa. Maintenant, il y a quelque chose à dire, c'est à moi ou à ma femme. C'est vous bien rassurer, en fait.
Alors, nous avons eu trois modalités hein, de rencontres avec les parents, suivant les associations, l'entrée institutionnelle, un groupe d'intérêt public qui travaille aussi avec, où il y a partenariat avec des associations, toute cette mobilisation autour des parents. Est-ce que vous avez des une ou deux ou trois questions que vous souhaiteriez
sur des questions de compréhension, des questions de détail, pas forcément sur les relances sur le fond, hein, mais vraiment des questions où vous dites, voilà, ça, j'ai pas eu la précision, je voudrais l'avoir pour comprendre, etc.
J'avais une question concernant l'école aux parents. Tout à l'heure, vous indiquiez qu'il était plus aisé de faire venir un membre associatif au sein de l'école ou au sein du collège pour proposer cette école aux parents. Est-ce que le mouvement inverse est possible ? C'est-à-dire, est-ce qu'un enseignant d'éducation nationale peut se rendre dans une association, une maison de quartier, pour justement faire l'école ouverte aux parents ?
Ça a pu se réaliser à une certaine époque où l'éducation nationale avait peut-être quelques moyens pour décharger des heures d'enseignement ou des enseignants carrément dans certaines associations ou autres. Ça se fait de moins en moins. Maintenant, il faut voir si dans la loi de refondation de l'école, le temps de travail des enseignants va être organisé autrement, hein, avec du temps pour travailler avec les partenaires, pour travailler avec les parents. On pourrait peut-être s'imaginer sur certains territoires des échanges dans des espèces d'expérimentations comme le souhaitait Pierre Perrier ce matin. Pourquoi pas? Mais en tout cas, pour l'instant, non. La mission des enseignants et les directeurs académiques ou les recteurs ou les inspecteurs le répètent quand même suffisamment souvent. La mission des enseignants, la première mission, c'est d'être devant les élèves. Point, quoi. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'Isère, si on a pu travailler avec une association, en tout cas, c'est que, par exemple, on n'avait pas d'enseignants disponibles pour faire cette activité-là. C'est-à-dire que dans le premier degré, donc les instituteurs d'école étaient déjà en poste, et on ne pouvait pas les décharger de faire leur travail en face d'élèves pour aller faire la classe à des parents. Et pour ce qui est des enseignants, des professeurs du second degré, ils étaient déjà tous, non seulement sur leur poste, mais en plus, pratiquement tous dans l'Isère, avec des postes en heures supplémentaires. Donc on ne pouvait vraiment pas non plus les décharger pour faire ce travail-là. C'est alors une des raisons qui a fait qu'on est allé très facilement vers le partenariat avec l'association. L'autre raison, c'est que c'était un choix politique aussi de se tourner vers une association plutôt que vers nos propres ressources. Donc l'un a servi l'autre.
Moi, j'ai une question sur les AEF. Je pense avoir compris ce que c'était. Par contre, ma question, c'est qui finance, qui met en place ? Qui choisit où on met en place? Est-ce qu'il y a des dossiers à faire? Est-ce qu'une association peut être à l'origine de ça? Est-ce que c'est forcément l'école? Voilà. Comment on met en place?
Non. Pour la mise en place, on est un petit peu plus aidé qu'avant, parce qu'avant, on était vraiment dans un grand inconfort. C'est-à-dire que suite à la phase expérimentale qui a duré entre 2008 et 2010, on s'est retrouvé en 2010 avec un cadre national de référence. Donc un cadre de principe hein, qui contient des principes pour organiser l'action, mais au final, contrairement au dispositif ouvrir l'école pour réussir l'intégration, on était sur quelque chose de très très souple, c'est-à-dire qui ne reposait sur aucune circulaire par exemple de mise en œuvre et avec aucune ligne de financement. Donc c'était du bricolage et ça l'est toujours d'ailleurs au niveau des financements. C'est-à-dire que pour mettre en place une action éducative familiale, on peut demander alors un financement auprès des caisses d'allocation familiale, puisqu'on est quand même hein, sur le pôle parentalité et soutien à la parentalité, quoique on rencontre quand même des difficultés. Souvent, enfin, il y a des CAF qui s'y opposent en disant attention, nous on va pas dans le champ de la formation. À cet argument, on peut quand même répondre que proposer de la formation de base, ça aide aussi hein, aux parents à se tenir dans les situations du quotidien et pas que dans le rapport à l'école. Donc ça, c'est pour le financement CAF. Ensuite, il y a des financements au niveau des préfectures. En ce moment, c'est là peut-être où c'est le plus aisé, si on peut dire ça comme ça. Je crois que c'est le financement 106, aide à la parentalité. Sur là où le ministère de l'Éducation nationale s'empare de la question, c'est que du coup, il va faire rentrer toute cette question de la sensibilisation qui peut se faire à travers le kit dans les plans académiques de formation des enseignants. Donc à ce niveau-là, il fait ça. Et les partenariats avec l'Éducation nationale seront facilités puisque ces AEF, elles font l'objet de circulaires en fait. Il y a une circulaire du 27 octobre dernier, je crois, qui les mentionne. Il y a aussi la circulaire donc de rentrée scolaire, hein, la dernière qui les mentionne également. Donc les partenariats seront facilités parce qu'au niveau des directions académiques, eh ben, du coup, on invite hein, les inspecteurs à se saisir de ce dossier et à travailler en partenariat avec les structures associatives qui se sentent en capacité de mettre en œuvre et de ce type de projet, de travailler en ce sens. Donc ensuite, nous, agence, on a une cartographie des actions qui existent déjà. Quand une structure veut se répertorier comme pouvant mettre en place une action éducative familiale, on accorde un label selon la description et le sens hein, qui est octroyé à l'action, c'est-à-dire comment on travaille avec les parents, est-ce que c'est bien à parité d'estime, dans quel cadre, vers quels objectifs. Mais au niveau des financements, non, il n'y a pas de financement fléché action éducative familiale. Et là, j'ai envie de dire que vu les orientations très récentes, l'implication de la ministre déléguée à la réussite éducative, l'impulsion risque de venir pour les mois, enfin pour la rentrée prochaine, risque de venir de l'éducation nationale. Par exemple, là, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, on réalise, alors, je dirais pas une étude ni une recherche, mais c'est plutôt un peu, on teste, on regarde, enfin, ça va être un peu une évaluation de ce qui est mis en place dans les Bouches-du-Rhône, avec cette possibilité, enfin, voir s'il est pertinent d'adosser des actions de ce type prioritairement à des classes de toutes petites sections, avec l'idée hein, derrière de se dire que l'accrochage scolaire des parents se joue aussi, sur les, dès le début de la du parcours scolaire des enfants. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu oui. Ça. C'est du bricolage, c'est de l'enchevêtrement.
Y compris dans les directions académiques.
On en dira un mot peut-être tout à l'heure de ces choses-là, des questions de l'articulation entre les métiers du pilotage et les acteurs. Mais...
Bien, mais je remercie.
Il y a une question là.
Oui, moi je voulais quelques précisions au niveau des écoles maternelles, mais je pense que c'est transférable. Les enseignantes qui avaient fait le choix à partir des actions de ne plus passer des mots par écrit. Alors quels sont les outils qui ont été mis en œuvre mais pour atteindre toutes les familles? C'est un peu ça la complexité qu'on peut rencontrer dans une école.
Alors j'ai un témoignage là, enfin, justement d'une enseignante qui avait participé. Alors c'était aussi enseignante qui disait qu'elle avait changé ses pratiques, elle avait participé à toute la phase expérimentale. Elle disait que par exemple elle communiquait hein, de façon elle communiquait à l'oral beaucoup plus volontiers. Elle organisait des temps aussi hein, dans sa classe où il n'y avait que 5 parents. Par 5 en fait les familles disaient ben, moi cet après-midi, tous les jeudis après-midi en fait sa classe était ouverte et les parents à tour de rôle à raison de 5 maximum pouvaient venir, donc ça crée de toutes les façons d'autres relations. Et puis concernant les mots, on a des enseignants alors qui disaient pas, qui étaient moins catégoriques peut-être hein, les mots n'étaient pas proscrits, mais pour autant qu'il y avait une autre utilisation justement de ces supports d'information qui disait qu'ils surlignaient hein, les choses importantes, qui limitaient la communication aussi écrite hein, à vraiment des choses très essentielles et qui n'hésitaient pas hein, quand il n'y avait pas de retour de la part d'une famille justement à prendre les devants plus qu'ils ne l'auraient fait s'ils n'avaient pas été sensibilisés.
Peut-être une toute dernière parce qu'il faudrait vraiment qu'on avance. Voilà.
Vous n'avez pas répondu comment vous faisiez pour accrocher les parents, pour les faire venir, même par 5, parce que sans les mots d'accord, les paroles d'accord, mais comment aller à la rencontre des parents pour leur dire qu'il y a l'ouverture? Vous faites comment?
Disons que je peux pas vous dire comment ça se faisait partout. Par exemple, je peux vous dire là où ça. Enfin, je peux vous décrire ce que j'ai vu faire, hein, parce que je suis pas directement du tout sur le terrain. Moi, après, je travaille avec des personnes qui rendent compte, hein, de leur pratique quotidienne. Par exemple, on va prendre une école maternelle où une action éducative familiale est menée. Donc, elle est ouverte à tous les parents, pas seulement les parents de la maternelle, hein, à tous les parents qui ont des enfants dans l'école ou même qui ont des enfants sur le secteur, parce que ça peut être aussi des parents de collégiens. On a vu que le bouche à oreille marchait bien, hein, sur un territoire déjà. Ça se passe à Marseille, enfin dans le quartier dont je vous parle. Les parents, entre eux, font écho, hein, de ce qui se fait. Donc ça, déjà, c'est une des possibilités. Ensuite, je me souviens que lors, justement, de la réunion de rentrée scolaire, au tout début, quand on remplit, justement, les fiches d'inscription, les enseignantes, elles avaient été sensibilisées à cette problématique de l'illettrisme. Du coup, elles avaient quelques petites clés, hein, pour essayer de diagnostiquer, même si j'aime pas ce terme, qui pouvait être potentiellement en ces situations. On se rend compte que certains parents vont pas volontiers remplir enfin, ce sont des petits indices, hein. À chaque fois, il faut pas se fier à un indice en particulier, mais bien considérer de façon un petit peu plus large un faisceau d'indices. Mais c'est vrai que quand les personnels de l'éducation nationale et les enseignants sont sensibilisés, hein, à cette problématique, du coup, ils portent le regard, voilà, sur un peu tous les éléments qu'ils ont à leur portée. Et donc, ce qui était proposé, c'est de dire aux parents, bah, écoutez, nous, dans ce quartier, on a des difficultés à échanger avec les familles. Très souvent, on se rend compte, hein, qu'il y a des incompréhensions réciproques. Et donc, du coup, votre avis nous intéresse. Et on aimerait, voilà, comprendre pourquoi, bah, des parents ne viennent jamais aux réunions, pourquoi, pour certains parents, c'est difficile de rentrer dans la classe. Et à ces temps, hein, collectifs de discussion, on peut vous proposer un éclairage un petit peu sur les enjeux, sur le fonctionnement de l'école. Voire, on a une formatrice aussi qui intervient à raison de 2 fois par semaine et qui propose, voilà, de la formation au savoir de base si vous voulez renouer un petit peu avec les apprentissages, si c'est difficile d'aider votre enfant le soir dans l'apprentissage de la lecture. Voilà, c'est cet ensemble de choses qui a pu être proposé, par exemple, et de cette façon-là. Mais en disant d'abord, votre avis nous intéresse. Et je crois que c'est un peu ça l'intention, en tout cas, du chercheur collectif et de ce que les parents retiennent du chercheur collectif.
Oui, merci. Juste une remarque. Je travaille actuellement dans une école ardéchoise dans le cadre d'un mémoire et j'ai fait des observations et les enseignantes m'ont souvent expliqué que la difficulté, c'était pas tant en maternelle, parce qu'en maternelle, les parents doivent amener leurs enfants à l'école et donc ils voyaient régulièrement les parents. Ils pouvaient expliquer avec eux les sorties scolaires, etc. Et même avec les parents qui ne maîtrisent pas le français, ils arrivaient à communiquer avec eux. Par contre, la fracture se faisait au niveau du passage en primaire, parce qu'à ce moment-là, les enfants sont en droit de venir seuls à l'école. Et donc, du coup, les enseignantes ne voient plus les parents et ne peuvent plus communiquer régulièrement avec eux. Et maintenant, où avec les différents plans Vigipirate, etc., où les écoles sont de plus en plus fermées, eh bien, nous n'avons plus, enfin, je dis nous parce que je suis également enseignante, mais nous avons de moins en moins ce lien quotidien avec les parents où on remettait l'enfant parce qu'on voyait le parent qui venait le chercher sur le perron de l'école. On voyait les parents, on pouvait faire juste une petite remarque sur la situation de l'enfant. Donc, je trouve qu'il y a une cassure dans les relations parents enseignante au moment du passage en primaire.
Alors, si je peux me permettre de commencer de répondre, nous on pense que le boulot qu'on a fait, on est passé par un travail collectif entre les parents. Et on pense que c'est important. Alors peut-être qu'à la maternelle c'est plus facile parce qu'on arrive à associer les parents dans une relation individuelle. Mais effectivement, si on continue plus tard, je pense que le rôle du parent, c'est pas simplement d'accompagner son enfant. Et il faut que les parents se connaissent entre eux, parce qu'un parent qui est très éloigné de l'école seul, il aura vraiment du mal à franchir la porte. Prenez les 5 parents militants d'ATD qui sont venus ce matin, ils ont participé tous à des universités populaires avec ATD Carmonde. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait un chemin pour rencontrer d'autres parents qui vivent des situations difficiles comme eux. Du coup, ça permet de se dégager de la honte, se dire, ça peut paraître étonnant, mais quelqu'un qui est en situation de grande exclusion, au début, il a l'impression d'être seul. Ils ne se rendent pas compte que les autres vivent des choses pareilles. Nous, on a fait des séminaires internationaux où des gens de la misère étaient sidérés quand ils voyaient qu'en Angleterre, il y avait aussi des gens qui vivaient des exclusions aussi grandes qu'en France. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que ça existait aussi en Angleterre ou en Afrique ou dans d'autres continents. Donc il y a tout un travail, on appelle ça le travail par pair. Et là, c'est un peu plus compliqué à faire, effectivement, parce que ce n'est pas les enseignants qui peuvent seuls l'organiser. S'ils le font, à la limite, même ce serait... D'abord, ils n'ont pas le temps, mais en plus, ce ne serait pas forcément bon, parce que très vite, on dirait pourquoi est-ce qu'ils veulent éduquer les parents? Leur rôle, c'est d'instruire les enfants, ce n'est pas d'éduquer les parents. Donc c'est là où on a besoin d'autres partenaires. Et dans les trois exemples qu'on a dit, il y a des actions collectives de parents qui se sont créées et qui ont toutes joué un rôle pour que les parents, en se connaissant entre eux, étaient plus à l'aise après pour rentrer dans l'école. On l'entend dans le monsieur qui s'exprime dans le film, c'est tout à fait clair que le fait d'avoir fait ce travail-là avant, ça le met à l'aise avec l'école. On vit la même chose à TD Carmonde. Donc si on veut que les parents viennent à l'école élémentaire, à l'école primaire, et à l'école élémentaire après au collège, etc., c'est sûr qu'il faut trouver des manières de faire pour qu'ils puissent venir en collectif. Je pense par exemple les histoires de décrochage scolaire. À Maurepas, à Rennes, on a vu que c'était un sujet qui préoccupait les enseignants. S'ils voient ça individuellement avec les parents des enfants décrochés, c'est difficile parce que les parents se sentent montrés du doigt en leur disant « ça y est, c'est mon gamin qui décroche, c'est de ma faute, et patati patata, ils veulent m'emmerder, qu'est-ce que je peux faire là-dessus ?» Par contre, si on crée un collectif où les parents développent une réflexion entre eux, pourquoi nos enfants ils n'aiment plus aller au collège, pourquoi petit à petit ils sont complètement découragés d'apprendre, etc. Que les enseignants font la même démarche de leur côté et qu'après ça on réfléchit ensemble, là on avance. Et là les parents sont dans une situation de vraiment faire connaître leur enfant au collège de leur point de vue. Qu'est-ce qui vit dans le quartier? Qu'est-ce qui vit à la famille? Qu'est-ce qui a changé dans la vie familiale? Moi j'ai vu des familles qui étaient désespérées, il n'y avait plus de repas familial dans la maison. Chaque enfant, le mode de vie quand même change. Il y a plein de choses qui changent dans la vie aujourd'hui. Une maman qui élève seule ses enfants, et il y a des fois, elle part travailler avant d'avoir levé ses enfants, avant qu'ils partent à l'école, et elle revient quand ils sont couchés le soir. Les moments où, et si elle est seule avec ses enfants, qu'il n'y a pas de papa, je veux dire, la communication dans la famille peut en prendre un coup aussi très très difficile. Donc,
on vous propose de...
Donc tout ça, il y a besoin de que chacun puisse s'expliquer avec d'autres parents. À Maurepas, on avait 50 nationalités. Comment voulez-vous que les 50 nationalités soient à l'aise avec l'école s'ils ne se connaissent pas entre eux les uns les autres, qu'ils ne savent pas quel est le projet des autres parents, comment ils voient l'avenir de leurs enfants, comment on réagit face à ce qui se passe dans le quartier, qui fait peur aux enfants, la drogue, les machins, tout ça. Il n'y a pas que l'école, c'est tout un univers où on a besoin de partager la responsabilité parentale dans un quartier où c'est pas facile. Il y a le côté de l'école, mais il n'y a pas que l'école, donc le centre social peut très bien contribuer. Et là, c'est même important, nous, le partenariat est déterminant. L'école seule, c'est difficile qu'elle rétablisse le contact avec les parents les plus éloignés s'il n'y a pas des tiers qui contribuent à faire, à faire une partie du boulot.
Non, je vous remercie beaucoup pour votre participation.